L'avant-match. Voici François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va très bien toi-même.
OK, ça va très bien. Ça, c'est important pour ma première question. Parce que si tu m'avais dit, « Ah, Dan, ça file pas trop, puis mal au sinus un peu, puis tu sais, grippe musculaire depuis 3-4 jours », je pense pas que je me serais embarqué dans un débat Price ou Alak avec toi ce soir, parce que je me serais dit, il y aura pas la force nécessaire pour se rendre au bout du débat, tu sais. Mais comme tu m'as répondu, ça va très bien, allons-y immédiatement, faisons référence évidemment à la victoire par jeu blanc de Yaroslav Halak hier soir au Centre Bell, et j'ai des statistiques à l'appui pour toi. Évidemment, je veux faire réfléchir nos auditeurs sur le fait que Price a été le tout premier choix du Canadien en 2005 et qu'au moment en 2010, quand Yaroslav Halak a vaincu en 7 matchs tour à tour Washington et Pittsburgh avec un Carey Price assis sur le banc, ben la suite de ça, la conséquence de ça, ça a été qu'on a échangé Yaroslav Halak et à ce moment-là, j'étais entièrement d'accord avec la décision du Canadien. Allons voir! 8 ans, presque 9 ans plus tard, François, qu'est-ce que ça a donné, les statistiques de ces deux gardiens-là? En carrière en série, Halak, c'est 30 matchs de jouer, 13 victoires, 15 défaites. Vous allez comprendre que dans les statistiques de gardien en série, il n'y a pas de défaite en prolongation ou en tir de barrage. Tu gagnes ou tu perds. Ça ne donne pas un point quand tu perds en prolongation. Voilà pourquoi ce n'est pas dans le stats. 13 et 15 pour Halak, François, 2.39, 924 pourcentage d'arrêt. Pour Price, c'est 60 matchs joués en série, 25-31, 2.53 moyenne de buts alloués, 914 pourcentage d'arrêt. Et en carrière, Yaroslav Halak a 2 victoires, 2 défaites en termes de série gagnée ou perdue, la série au complet et non seulement un match, alors que Price, c'est 4 séries gagnées contre 7 perdues.
Je prends Price quand même.
Ben moi aussi, François.
Mais je m'en l'explique comme ça, je pense, Dan, puis t'as mentionné, puis je pense que c'est important que, tu sais, quand le Canadien a pris cette décision-là, la grosse transaction, il y a deux choses là-dedans. Les gens vont peut-être se rappeler. La première chose, c'est que tu remontes quand même à plusieurs années. Tu sais, peut-être les Twitter, les choses comme ça n'existent pas ou en tout cas fonctionnent pas au même régime. Et je me rappelle que le Canadien avait échangé à Halak à Saint-Louis. Qu'on dévoile au départ ce qu'on avait obtenu en retour. Puis moi, je vais toujours me rappeler de ça parce qu'à l'époque, les gens étaient convaincus que c'était David Perron qui s'amenait à Montréal. Puis oui. Finalement, bon, c'était un dénommé Lars Eller qu'on connaissait pas beaucoup.
Oui, c'est ça.
Mais moi, à l'époque, je suis pareil comme toi. Moi, j'étais convaincu que le Canadien a pris la bonne décision. Je suis encore convaincu que le Canadien a pris la bonne décision parce que pour moi, même si l'écart est pas énorme, je pense que Price est un meilleur gardien de but qu'Halak. Mais moi, écoute, il y a quelque chose dans le cas de Price. C'est que je veux dire, il pourra, s'il ne gagne pas une Coupe Stanley, s'il ne réussit pas à avoir une grosse présence en série d'après-saison, tu as toujours l'impression qu'il ne sera jamais capable de plaire aux partisans du Canadien puis de plaire peut-être aux journalistes de Montréal pour ses performances reliées au salaire qu'il gagne. Tu sais, si Carey Price gagnait 5 ou 6 millions de dollars par année, je pense que les gens accepteraient beaucoup mieux qu'il y a des petites baisses de régime, des matchs un peu plus difficiles.
Oui.
Mais à quoi 10,5 millions par année? Le gars est condamné à gagner. Puis tu sais, Dan, ça passe vite. Là. Le gars, il est arrivé à 30 ans. Oui, il y a un gros contrat, un long contrat. Mais tu dis, à un moment donné, il va falloir que les résultats viennent en série. C'est surtout là. Mais il n'y a rien qui nous dit que le Canadien va faire les séries cette année, l'an prochain, puis surtout que le Canadien va être un compétiteur pour la Coupe Stanley. Participer aux séries, c'est une chose, être un compétiteur pour aller gagner la Coupe, c'en est une autre. Mais comme je te dis, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute dans mon esprit, je prends Price avant Halak, mais en raison de la différence énorme entre les deux salaires, ça te donne l'impression que la différence n'est pas si grande entre les deux. Là.
Mon chum m'a dit cette semaine... Si Price avait le caractère d'Halak, il aurait déjà gagné une coupe à Montréal.
C'est pas, je déteste pas la façon de dire ça, mais tu sais dans le cas de Price, je sais pas si c'est une question d'attitude, c'est une question de
personnalité.
Personnalité, de comportement, c'est un gars qui, et surtout en début de carrière, là, qui avait l'air vraiment un peu au-dessus de ses affaires, que je pense depuis quelques années beaucoup plus sérieux, évidemment, il est devenu père de famille et tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est peut-être pas l'attitude parfaite pour le milieu parfait. dans de la façon dont les choses se sont passées. Parce que, tu sais, quand on l'a repêché en 2005, les partisans ne voulaient pas d'un gardien de but. À ce moment-là, c'était pas ce qu'on avait besoin. Il y a eu des moments difficiles. La bataille, entre guillemets, à Lack Price, dans le cœur des gens, là, je parle pas de gardien de but qui est le meilleur, mais dans le cœur des gens, les gens voulaient qu'Alak reste avec les performances qu'il avait données en série. Fait qu'il y a toujours eu quand même beaucoup de choses contre lui. Je vais ajouter, Dan, les nombreuses rumeurs qu'on a entendues dans les 10 dernières années. Écoute, je sais pas c'est quoi le pourcentage qui est véridique de toutes ces histoires-là. Il y en a probablement qui sont inventées. Il y en a d'autres qu'on entend tellement souvent que tu dis, peut-être ça se rapproche de la réalité. Mais on dirait que moi, je pense que Carey Price aurait probablement eu une plus belle carrière dans une autre organisation que celle du Canadien, dans la façon dont les choses se sont déroulées. Puis moi, je ne change pas d'idée sur une chose, Dan, c'est que demain matin, tu mets Carey Price sur le marché, tu vas en avoir des appels, puis pas à peu près. Le 10,5 millions ne fera pas peur à tous les DG. Il y a des gens qui ont... Tu penses aux Flyers, puis aux Blues, puis à des équipes qui se cherchent des gardiens depuis très longtemps. Je pense qu'eux le prendraient à bras ouverts en étant même prêts à payer un certain prix. Mais, tu sais, comme je te dis, le contexte, la façon dont les choses se sont déroulées, puis le fait que, tu sais, tu t'es rendu à 31 ans, tu viens de nous donner ces statistiques en série, il n'y a pas eu beaucoup de choses pour nous aider, les gens comme toi et moi qui l'ont, entre guillemets, protégé en 2010 ou dans ces années-là quand il y a eu la transaction pour Alak. Fait que, tu sais, on peut pas dire qu'il nous a donné beaucoup d'arguments pour dire que c'est définitivement l'un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale d'hockey.
Exact. Comme c'est la dernière semaine avant Noël, on va s'amuser un peu. On retourne au repêchage de 2005 et le Canadien repêche au rang 5 Andy Kopitar au lieu de Carey Price. Donc, le Canadien avec Alak et Kopitar dans les dernières années, est-ce que tu penses qu'il aurait atteint au moins une fois la finale de la Coupe?
Non, honnêtement, non. Je pense pas que le Canadien était si près que ça d'aller loin en série. Il y a eu une année ou deux, tu as parlé de Alak, il y avait une année où Price avait été blessé contre les Rangers. C'est peut-être ces deux années-là où le Canadien est venu le plus près, mais pour moi, de la façon je te dirais ça, Dan, je pense que le Canadien n'aurait pas atteint la finale de la Coupe Stanley. Parce que, évidemment, il restait beaucoup, beaucoup de trous dans cette organisation-là. Mais je suis pas certain, par exemple, que les Kings l'auraient gagné une couple de fois, par exemple.
Mais non, mais j'ai pas fini mon jeu. Là, au rang 6, au lieu de prendre Gilbert Brûlé, Columbus repêche Carey Price.
Oui.
Est-ce que Columbus, avec Price, je sais qu'ils ont eu Bobrovsky dans les 2-3 dernières années, mais mettons, avec Price, une période de 10 ans, est-ce que Columbus atteint une finale de coupe?
Écoute, j'aurais été très surpris aussi. Puis dans le cas de Columbus, je pense qu'il y a eu quand même des séquences intéressantes, mais en série, ça a toujours été excessivement difficile. Puis il manque un peu de profondeur dans cette organisation-là depuis presque ses tout débuts. Ça aurait certainement aidé là, dans la période avant Bobrovsky, ça aurait certainement aidé. Mais je continue de croire que puis c'est vrai pour le hockey, bien les sports, mais écoute, c'est tellement un sport d'équipe. C'est tellement un sport où, quand les séries commencent, il y a des joueurs qui lèvent leur jeu d'un cran. Il y a des joueurs qui, en saison régulière, tu fais, ce sont des bons joueurs, mais qu'en série, c'est des machines. Là, tu sais, je pense, j'ai Jake Gunzel en tête, puis des gars comme ça que tu dis. On dirait que quand les séries commencent, ces gars-là deviennent des machines. Puis, tu sais, peuvent changer quand même l'allure d'un match. Mais pour gagner une Coupe Stanley, ça te prend un effort constant, puis ça te prend, tu sais. C'est des efforts presque surhumains ça prend un petit peu de chance aussi, mais je pense pas, dans le cas de Price, de Kopitar, puis de quelques autres joueurs de ce repêchage-là, que ça aurait pu changer quelque chose au résultat. Je pense pas qu'on aurait parlé de champion de la Coupe Stanley dans le cas de Montréal et Columbus là.
On continue de s'amuser. Est-ce que les Kings gagnent en 2012 et en 2014 sans Kopitar? Je pourrais pas te dire c'est qui le joueur qui aurait repêché, mais mettons un peu meilleur ou beaucoup meilleur que Gilbert Brûlé, puis mettons moins bon que Kopitar.
Ouais, mais me dire une chose, Gilbert Brûlé, moi quand il jouait avec Vancouver dans la Ligue de l'Ouest, je l'aimais pas à peu près.
Ben oui.
Je l'avais trouvé très bon à la Coupe Memorial, oui, entre autres.
Exact.
Mais dans le cas de Kopitar, peut-être que, tu sais, puis je te dis, ça reste un sport d'équipe, puis Kopitar a été un excellent choix, puis je me rappelle comment les gens doutaient parce qu'il jouait en, tu sais, c'est un Slovène, il vient de la Slovénie, puis tu sais, quand tu le vois jouer dans un tournoi de calibre B, avec pas nécessairement les meilleurs joueurs de son âge, il avait toujours l'air très dominant, puis on se demandait toujours si ça allait se transposer. La question que je me pose, c'est est-ce que les Kings auraient eu assez d'attaque à ce moment-là pour gagner ces Coupes Stanley-là? C'est peut-être la seule chose que je me pose comme question, mais ça a toujours été ça fait drôle à dire parce que les Kings puis les Blackhawks sont dans la cave aujourd'hui, mais dans ces années-là, les Kings puis les Blackhawks pouvaient gagner la Coupe à chaque année. Puis ça, même s'il y avait un peu de changement dans l'équipe, parce que c'était tellement des équipes qui étaient dures à affronter, c'était physique d'aller gagner sur la route là-bas, c'était très, très, très dur. Puis c'est d'ailleurs ce que Drew Doughty disait la semaine passée en parlant des Kings, qu'il faudrait que les équipes recommencent à les redouter un peu. Puis tu sais, à l'époque, c'était un club qui jouait physique, mais je pense que tu avais absolument besoin d'un capitaine pour aider en attaque. Ça n'a jamais été un club explosif, ça l'est encore moins aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de difficultés à dire est-ce que les Kings auraient gagné la Coupe ou non. Je pense que ça aurait été pas mal plus difficile avec l'absence de Kopitar, évidemment, sans savoir qui les Kings auraient repêché à sa place.
OK, c'est la fin du dossier Price et Halak. Restons dans le domaine des gardiens de but. Allons voir ce qui se passe à Philadelphie ce soir. Carter Hart va faire ses débuts dans la Ligue nationale il y a 20 ans. On l'a vu avec l'équipe du Canada dans les deux dernières années au championnat mondial d'hockey junior. Les Flyers sont très mal gérés depuis plusieurs années. Moi, j'ai pas été un grand fan de l'époque de Bobby Clark comme DG. Ça n'a pas été mieux avec Paul Holmgren, ça n'a pas été mieux avec Ron Hextall. Est-ce que les Flyers font une erreur d'envoyer dans la mêlée avec une équipe qui est tout croche, dernière équipe de la conférence de l'Est, en date d'aujourd'hui, les Flyers? Est-ce qu'on panique à Philadelphie, François?
Non, moi, je pense pas. Je pense vraiment qu'on est rendu là, Dan, parce que, écoute, le seul qui, cette année, avait fait un peu le travail, c'était Brian Elliott avant sa blessure. C'était quand même pas si mal. Mais, tu sais, je regardais, écoute, Anthony Stolarz, dans les dernières semaines, a été épouvantable. Calvin Pickard n'est pas un numéro un dans cette ligue-là. T'as vu, ben, Newvert a presque pas gardé les buts. Moi, je pense qu'on est rendu là à se dire, est-ce que Carter Hart fait vraiment partie de la crème? Parce que, je sais pas, j'ai vu une couple de reportages, Dan, où on disait que les Flyers étaient dans les équipes qui avaient les meilleurs espoirs dans leur organisation. Puis Carter Hart faisait toujours partie de cette équation-là en disant que c'est un des meilleurs espoirs. Il y a eu des chiffres incroyables avec les Silver Tips d'Everett dans la Ligue de l'Ouest. Mais il faut mentionner qu'il y avait aussi de très, très bonnes équipes devant lui. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit doute là sur Hart, dans le sens où je suis pas sûr que c'est un gardien de franchise. Je pense qu'il peut être un très bon gardien. Il n'y avait pas des stats extraordinaires cette année dans la Ligue américaine.
Non,
mais on est vraiment rendu là, Dan, parce que je pense qu'il faut vraiment se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau, premièrement, du coach. Tu sais, est-ce que Gordon est là pour rester? Est-ce que vraiment intérim parce que c'est Joel Quenneville ou quelqu'un d'autre qui va s'amener? Est-ce qu'on a une chance de gagner avec cette équipe-là? Parce que sinon, il faut prendre des décisions sur quelques vétérans, des gars qui ont passé la trentaine puis qui en ont peut-être moins à donner que prévu. T'as quand même une bonne base de jeunes, mais je pense qu'on est rendu là de se dire, écoute, qui est le meilleur gardien dans notre organisation? Tu sais, Carter Hart n'a pas 18 ans puis il joue dans la Ligue de l'Ouest. Là. Il y a 20 ans, tu as mentionné championnat junior, il a joué dans la Ligue américaine. Je pense qu'on est rendu là, mais il faut être prudent que, tu sais, 3 ou 4 matchs, si ça fonctionne pas, puis que surtout que la barque des Flyers continue à prendre l'eau, tu leur descends en bas, puis tu sais, je pense que tu, sans dire que tu mets une croix sur ta saison, tu vas peut-être faire les choses de façon différente. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça, Dan, parce que dans tous les gardiens qui sont disponibles, qui sont en santé, dans l'organisation, il n'y a aucun doute que Carter Hart est le meilleur. Donc, tu sais, changement de coach, ton meilleur gardien dans l'organisation, essayer de fouetter tes vétérans. J'ai bien hâte de voir comment ils vont répondre au congédiement de Dave Axel.
François, j'ai regardé le but de Thomas Chabot hier en prolongation contre Nashville. Est-ce qu'on l'avait sous-estimé ou il est juste 2 ans avant son temps?
Je pense que c'est un petit peu des deux. Parce que, tu sais, des places, entre autres au championnat junior, je l'avais trouvé bon sans bon sens. Puis quand je le voyais dans le junior, je le trouvais aussi très bon. Mais tu sais, tu gardes toujours une réserve. Parce que ça reste que c'est junior majeur, t'as un très bon calibre, mais c'est pas la Ligue nationale. Puis, tu sais, les premières années à Ottawa, évidemment, t'as l'ombre d'Eric Carlson. T'as pas les mêmes situations qui vont s'offrir à toi. C'est certain, je pense, Dan, que ça va ralentir un peu à un certain moment donné. Là, il est à peu près à 1 point par match. Il va peut-être finir avec 65, 70 points. Il finira peut-être pas avec 1 point par match. Mais je pense que Chabot est un petit peu meilleur et s'est adapté un petit peu plus rapidement que ce qu'on aurait pu croire parce que quand Carlson part, tu dis, tu sais, est-ce qu'il est prêt à prendre ce rôle-là à 21 ans? Est-ce qu'il est prêt à diriger l'avantage numérique puis à produire sur une base régulière, à jouer 25 minutes par match? Et je pense que, personnellement, je t'aurais dit de nous encore peut-être 2 ou 3 ans pour une certaine maturité. Mais ce qu'il fait présentement, c'est exceptionnel. Puis, tu sais, faut mentionner, là, les Sénateurs, c'est pas une grande équipe. Ils sont en voie de battre un record pour le nombre de tirs accordés dans une saison. Craig Anderson puis tous les goalers utilisés se font poivrer. Mais malgré tout ça, on réussit quand même à être très compétitif. Chabot sort du lot comme un gars qui, sans dire d'être un vol, mais il y a peut-être bien des équipes qui vont regretter d'avoir passé par-dessus lui. Mais jamais j'aurais pensé qu'il serait aussi bon à cet âge-là. Puis, tu sais, même, je regardais Dan dans le pool que je fais avec mes chums depuis des années.
Oui.
Le meneur a dans son pool Morgan Riley puis Thomas Chabot. Puis là, tu te dis, à un moment donné, ça va ralentir. Ça se peut pas, tu sais, que les gars finissent avec 85 points chacun. Mais là, tu arrives quand même au milieu décembre, puis les gars n'ont pas ralenti, puis tu as tellement de temps de glace sur l'avantage numérique que ça finit que les gars, tu sais, récoltent leurs petits points par-ci, petits points par-là. Hier, le but que Chabot a marqué en prolongation contre Nashville, ça te démontre tout son talent aussi. Mais je pense que dans le cas de Chabot, c'est devenu le pilier. Je pense pas qu'on regrette d'avoir échangé Carlson. On va peut-être le regretter sur le prix qu'on a obtenu en retour. On a peut-être pu obtenir un petit peu plus, mais Chabot a vraiment, vraiment, vraiment rempli les bottines de Carlson, puis ça, c'est vraiment à son honneur, parce qu'à 21 ans, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça.
Tu sais, François, il y a des rumeurs de transactions des fois, puis c'est très rare que ça se concrétise. Aujourd'hui, j'en ai vu une passer, que Duncan Keith pourrait s'amener à Montréal. Duncan Keith, c'est un vétéran, il gagne encore beaucoup d'argent pour encore 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, puis c'est un défenseur gaucher mobile, mais tu sais, il a ralenti beaucoup. Mais j'ai vu une rumeur passer, puis je veux pas qu'on s'arrête pendant 10 minutes parce que le temps file, là, mais je veux juste te dire que ça, c'est le genre de rumeur où je me disais, ça aurait été un bon fit, si tu me prêtes l'expression. C'est Andrei Burakovsky, le jeune joueur des Capitals, qui est pas capable de sortir de sa coquille à Washington. La rumeur l'envoyait à Vancouver, puis je me disais, hein, tu parles d'une bonne idée, toi.
Oui, je suis d'accord avec toi, puis il y a des gars comme ça que dans des clubs tellement talentueux que tu n'as pas nécessairement de la place à te faire valoir. Puis il y a probablement des gars comme ça, t'sais, Washington, Tampa Bay, puis même Toronto, certains endroits où les gars jouent sur la troisième ligne, puis ils pourraient avoir beaucoup, beaucoup de succès en attaque. Mais je suis d'accord avec toi que ce serait un très bon fit, comme on dit dans son cas. Puis tu as parlé de Duncan Keith. Écoute, dans le cas des Blackhawks...
Hey, François Will a fait la recherche. Là, excuse-moi, juste préciser. Après cette année, il va rester 4 ans encore de contrat à 5 550 000.
Et voilà. Puis je pense, tu me voles les mots de la bouche, parce que si Stan Bowman réussit à échanger soit Duncan Keith, soit Brent Seabrook, écoute, je sais pas de quelle façon on peut ficeler ça. Moi, je disais, à un moment donné, la seule manière que tu peux le faire, presque, c'est par exemple, d'attacher quelque chose avec, là, d'attacher un choix repêchage. Tu peux presque pas dire attacher un Taves ou un Kane, parce que ça fait beaucoup trop d'argent à échanger. Et dans les deux cas, puis je pense que Seabrook, c'est encore plus véridique, vraiment, vraiment ralenti dans les dernières années, mais je vois pas comment Stan Bowman va réussir à échanger ces gars-là. Ça va te prendre tout un poisson, ou sinon, tu sais, vraiment beaucoup de choses autour du gars pour que tu puisses l'échanger. Tu sais, si tu avais dit 1-2 années, je pense que c'est pas si mal.
Fait,
mais là, quand on parle de 4 ou 5 ans, il y a personne qui va toucher à ça avec une berge de pieds.
François, avant de te laisser en 20 secondes pour ta réponse, tu as 20 secondes pour répondre, dans le fond. Manny Machado rencontre les Yankees demain. Est-ce que c'est les Yankees qui, selon toi, sont les grands favoris pour le signer?
Non, je pense que ça reste les Phillies de Philadelphie. Okay. Les Phillies vont signer soit Harper, soit Machado.
Okay.
Et comme les Phillies ont signé Andrew McCutchen pour 3 ans, j'ai l'impression qu'on aimerait avoir Machado le faire jouer au troisième but parce qu'on est allé chercher Segura de Seattle. Donc moi, je continue de croire que Machado va aboutir avec les Phillies de Philadelphie. Mais, je te dis en 2 secondes, les White Sox sont allés chercher son beau-frère et Yonder Alonso, puis espère le convaincre de signer. J'ai hâte de voir, ils n'ont pas une très grande équipe, mais est-ce que la famille pourrait passer avant l'argent ou l'équipe compétitive, ça peut toujours arriver aussi.
Parfait, un gros merci François, joyeuse fête à toi.
Salut, joyeuse fête à tout le monde, merci.
À bientôt, on va reparler à François, évidemment, en janvier 2019. On écoute Claude Julien, un extrait que Will nous a sorti à la suite du match d'hier, un revers de 4-0 contre les Bruins et Yaroslav Halak.
Des fois, il n'y a aucune explication. Je peux pas te répondre parce que moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Comme j'ai dit, on a parlé de toutes ces situations-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est que l'équipe de l'autre côté sont venus avec une ambition de gagner le match. Nous, on est venus pour jouer ce soir. Je suis pas sûr qu'on a réalisé l'importance. Puis c'est ça. C'est que demandez-moi pas la même question, je vais vous répondre la même chose. J'ai aucune réponse à part de vous dire qu'on ne s'est pas présenté ce soir.